Bienvenue dans le podcast des parcours d'entrepreneuses inspirantes. Je suis Fariza Souila, fondatrice de Mariska, agence de conseil en images, photographie et maquillage, et aussi votre hôte pour le podcast Talk with Mariska. Talk with Mariska, c'est quoi ? C'est des conversations avec des femmes inspirantes qui me parlent de leur parcours, leurs réussites, leurs échecs, leurs inspirations. Elles me déroulent leur vie d'entrepreneuse qui n'est pas un long fleuve tranquille. Je suis entrepreneuse depuis 11 ans. Et dans mon parcours, je suis amenée à rencontrer beaucoup de femmes, des femmes exceptionnelles, des femmes avec des parcours de vie qui forcent l'admiration. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas raconter leur histoire avec ce podcast, à travers une conversation où je les questionne sur leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, leurs objectifs, leurs inspirations. Et peut-être donner l'envie à d'autres de pouvoir se lancer ou de juste les inspirer. Mais avant de vous parler de tous ces beaux parcours, je vais vous parler du mien, comment j'en suis venue à l'entrepreneuriat. Mes réussites, mes échecs, mes projets futurs, ce qui m'inspire, ce qui m'a donné envie d'avancer dans ces domaines. C'est parti, installez-vous confortablement et je vais vous raconter tout ça. Je suis l'aînée de 6 enfants, née un 7 avril 1980, un bélier, fonceuse. J'ai l'habitude de gérer des équipes, donc mes frères et sœurs, il fallait que ça marche droit. Mais ça va, je vous rassure, je ne suis pas un tyran au sein de mon activité. Donc j'ai toujours eu l'habitude de pouvoir gérer, aider, transmettre. Et dès l'enfance, je me suis rendu compte que j'aimais énormément tout ce qui était en rapport avec les arts, comme la musique, le chant, la peinture, le spectacle et la photographie. Mon oncle est photographe. Et dès le plus jeune âge, en fait, nous avons posé pour lui, mes sœurs et moi. Et on le regardait ensuite aller développer les photos dans la salle de bain, avec la lumière rouge, les bacs. Et aller de vraiment, j'étais fascinée par cet univers-là avec les produits. On mettait du papier photo et la photo se développait devant nous. C'était formidable. Et ça m'est resté dès le plus jeune âge. Je me dis, waouh, j'aimerais bien être photographe, c'est trop bien. C'est magique de voir toutes ces images sortir et de, à travers le temps, laisser quelque chose derrière soi. En fait, c'est un héritage qu'on laisse aux autres, parce qu'en plus, on regardait toutes les photos de famille, c'est lui qui les prenait, et des personnes qui n'étaient plus là, il avait pu capter ces moments qu'on ne retrouvera plus et que ces personnes ne sont plus ici avec nous. Et c'était un superbe héritage. Je me dis, waouh, il faut que j'aille faire ça. Mais mes parents n'étaient pas très, très fans, donc il fallait absolument travailler très, très bien à l'école et avoir un métier sûr, et pour eux, la réussite. Et je ne remets pas en question l'éducation de mes parents, je les salue. Au passage, c'était de pouvoir travailler dans un bureau au propre, puisque mon père est ouvrier, et donc il ne voulait pas que ses enfants galèrent comme il a galéré lui aussi sur des chantiers. Donc on nous a inculqué dès le plus jeune âge le travail, la rigueur et la réussite par les études et travailler dans un bureau. Mais mon côté rebelle, mon côté bélier, c'était pas évident de me faire comprendre tout cela. Mais pour ne pas décevoir mes parents, bien sûr que j'ai suivi des études. J'étais en général, à l'époque en STT. Je ne sais plus ce que ça correspond maintenant. Et j'en avais un petit peu... Je n'étais pas très à l'aise, donc je suis partie sur une filière professionnelle, un bac pro secrétariat que j'ai préparé. Puis ensuite, un DUT GEA à l'UT de Sceaux. C'était intéressant, j'ai eu plein de petits jobs. Et j'ai décroché un poste ensuite en tant qu'assistante RH dans une grande SS2I à la Défense, dans une tour de 20 étages. Et j'ai eu ce fameux bureau que mes parents voulaient absolument pour nous. Donc c'était très enrichissant, j'ai fait des très très belles rencontres, j'ai appris énormément de choses, mais j'étais pas à l'aise dans ce métier. Je n'étais pas à l'aise dans cet environnement, c'était métro, boulot, dodo. En plus, Aulnay-sous-Bois, la Défense, pour ceux qui connaissent, RER A, RER B, c'était l'enfer. Et je commençais vraiment à m'ennuyer, à ne pas être à l'aise et pas donner le meilleur de moi-même au boulot. Et le déclic, en fait, s'est fait en 2008, au moment où je traversais une épreuve personnelle. J'avais divorcé et j'ai tout remis ma vie à plat et me dire voilà. Ok, tu as eu une mauvaise expérience, ça a été un échec, tant pis. Mais comment tu peux faire pour rebondir ? Pense à toi. J'ai remis mon moi en priorité, puisque c'est ce que je n'avais pas fait auparavant. C'était compliqué, sans rentrer dans le détail. Et je me suis posée, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui te rend heureuse, qu'est-ce qui te fait vibrer. Et j'ai listé tout ce que j'aimais, ce que j'aurais aimé faire, les métiers, tout ça. Donc la photo, bien sûr, est revenue, mais les milieux de la mode étaient revenus. Et de fil en aiguille, en cherchant, donc j'avais cherché tous les métiers qui pourraient m'intéresser dans la mode. Et je ne sais plus comment, je suis tombée par hasard sur une école, l'école que j'ai intégrée à l'époque, et le conseil en image. Donc j'ai regardé ce que c'était ce métier, et en fait le conseil en image, c'est de vous accompagner des personnes en travaillant leur image, leur gestuelle, reprendre confiance en eux. C'est vraiment ce côté, ce qui m'a attiré, c'est ce côté allier la mode et transmettre et aider les autres à reprendre confiance en eux et à se réapproprier leur image, que ce soit dans la vie personnelle et aussi pour le professionnel. Et donc j'ai poussé un peu plus. À l'époque, il existait 3 écoles qui étaient certifiées d'État. Donc j'ai contacté plusieurs et j'ai eu le feeling pour l'une d'entre elles que j'ai intégrée. Entre le moment où, en fait, 2008 et au moment où j'intègre l'école, j'ai pu le faire qu'en 2010, puisque à l'époque, le coût de l'école, je n'avais pas les moyens de me la financer, qui coûtait 8000 euros à peu près. Donc ce que j'ai fait, j'avais la possibilité avec mon employeur, il y a le dispositif FONGECIF, donc je ne sais plus si c'est toujours d'actualité, mais c'est ce que j'avais fait la première fois. J'ai demandé à mon employeur de prendre un FONGECIF tout simplement. Donc la première fois, ça m'a été refusé. Il y a tous vos projets que vous avez mis en place, waouh, ça s'écroule. Je me dis mince, comment je vais sortir de ça et comment je vais trouver le financement. Et en fait, j'ai appris que le FONGECIF, il pouvait être refusé une première fois par votre employeur, mais la deuxième fois que vous proposez, en fait, lui, ce qu'il a refusé, c'est que je m'absente. C'était pas le financement. Donc au bout de 6 mois, on pouvait reposer le dossier à condition d'avoir son financement. C'est ce que j'ai fait. J'ai persévéré au bout de 6 mois. Donc, je suis revenue, je n'ai pas lâché. J'avais cette niaque-là qui me dit non, ne lâche pas, ne lâche pas. Et mon employeur n'avait pas le choix, puisqu'il a dû accepter ma demande d'absence pour 4 mois pour aller me former, sachant que je n'avais pas le financement. Donc, c'était un coup de poker. Je me dis demande quand même la demande d'absence, qu'elle soit acceptée, et on verra après pour le financement. Et je me suis rapprochée du FONGECIF en disant mon employeur accepte, est-ce que vous pouvez me financer cette formation ? On ne va pas se mentir, les 8000 euros, je ne les avais pas, mais j'ai joué un coup de poker. Je me dis, on va essayer d'avoir le financement. J'ai monté mon dossier avec un collègue je le remercierai jamais assez, qui m'a vraiment aidé à bien rédiger mon projet et leur expliquer pourquoi je faisais ça. Et sachant que ce métier, très très peu pris en charge par le FONGECIF. Et je ne sais pas par quel miracle, j'ai réussi à avoir le financement. Donc en septembre 2010, j'intègre l'école pour 4 mois de formation qui a été très intense, c'est très difficile, mais j'ai adoré chaque instant. J'ai rencontré des personnes formidables avec qui je suis toujours en contact. L'école était très bien, malheureusement, ils ont fermé. Mais ça a été une des plus belles expériences parce que je me suis dit, c'est enfin, je peux m'épanouir dans le métier que j'ai choisi. Donc l'examen, je ne l'ai pas passé fin décembre parce que j'ai eu une petite contrainte perso. Et j'ai pu le passer qu'au mois de mai 2011 et j'ai été enfin certifiée d'État. Donc grosse, grosse victoire et ça a été magique puisque à ce moment-là, j'allais au boulot. Je me dis, j'ai mon job alimentaire et à côté, je développais mon activité. Donc doucement mais sûrement et avec d'autres anciennes collègues de mon école. On a commencé à faire les prestations les week-ends et de fil en aiguille, je suis rentrée comme ça dans le conseil en images. Ça a été génial. J'ai monté ma structure en tant qu'auto-entrepreneuse. J'ai continué à me former puisque après est venu le maquillage. Dans le conseil en images, j'accompagne des clientes qui sont amenées à aller postuler pour des entretiens d'embauche. Donc on leur apprend à faire de l'auto-maquillage sur elles. Mais je ne suis pas maquilleuse. Le métier de conseillère en images, ce n'est pas le métier de maquilleur. Et comme je suis une passionnée, j'ai commencé à chercher une école qui pourrait me former. Donc Makeup Forever, ce n'était pas possible puisque j'étais en poste et je ne pouvais pas redemander à encore m'absenter. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé une école de maquillage à distance. Et oui, ça existe, et qui était très très bien. Et donc ça me permettait de continuer à travailler la semaine et me former en rentrant du boulot le soir et le week-end, travailler sur mon activité d'entrepreneuse. Donc je me suis formée au maquillage professionnel et ça a été aussi pareil, formidable, puisque à distance, et j'avais cette niaque-là et ne pas lâcher. Donc j'ai réussi, j'ai pas lâché, je me suis formée. Donc j'avais mes modèles, mes anciennes, mes collègues, mes amis, mon entourage. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu milieu du maquillage et qui est venue compléter ma partie conseillère en images. Donc, comme je vous l'ai dit, dès 2011, donc, j'ai déclaré mon activité en tant qu'entrepreneuse. Ça se passait très bien. Je travaillais la semaine et le week-end, j'avais mon activité que je développais. Donc, le site internet a été mis en place, le logo, travailler ma charte graphique. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat sans vraiment savoir où je mettais les pieds, la charge de travail, beaucoup d'heures, on ne compte plus ces heures, hein, mais j'ai adoré parce que je n'avais pas l'impression de travailler, mais quelque part je cumulais une fatigue et je ne m'en rendais pas compte. Et j'étais passionnée par ce que je faisais, donc après le boulot, des fois j'avais des clients, donc j'ai ramené du matériel avec moi. Et mes collègues voyaient ça, ils me disaient, qu'est-ce que tu fais à côté, après le boulot, j'ai un deuxième boulot et j'ai des clients. Est-ce que ça a suscité de l'envie, de la jalousie? Je ne sais pas. Et au fur et à mesure, mes relations avec mes collègues ont commencé à se dégrader. Ça se passait de plus en plus mal. Beaucoup de pression, sans rentrer dans le détail, mais ça a fini par un burn-out où en 2014, avril ou mai 2014, je perds la vue au boulot. Je fais une grosse migraine ophtalmique et j'arrive aux urgences. Et on me dit qu'il faut absolument arrêter, vous êtes en burn-out, madame. Et j'étais incapable de m'en rendre compte parce que j'avais cumulé beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie perso et après avec le boulot. Donc, c'était pas évident. Donc, gros burn-out, je m'arrête complètement et je me repose. Je reprends du poil de la bête qu'en septembre et je reprends mon poste d'assistante RH. Quand j'arrive, on me dit écoute, comme tu as été absente 4 mois, il faudrait que tu puisses prendre des congés, s'il te plaît. Donc, c'est ce que je fais, je m'exécute. Je prends à peu près 10 jours et je me rends au Maghreb, en Algérie. Et en plus, j'avais des clients là-bas, donc j'ai pris des vacances et en même temps, j'ai travaillé, je ne pouvais pas m'en empêcher. Et je m'épanouissais dans ce que je faisais, donc pour moi, je n'avais pas l'impression de travailler. Et moi, je mets ça sur mes réseaux sociaux professionnels, donc je suis en congé. Et je reviens de congé et je me rappellerai toute ma vie ce jour-là, je reviens au bureau et il n'y a personne sur le plateau. Et je vois que mon chef m'avait appelé. Donc, je vais voir mes collègues. Je lui dis, il n'y a pas grand monde. Et je vois que les gens sont un peu distants, mais voilà, c'est bizarre. Vous sentez que c'est un peu, l'atmosphère est lourde. On vous regarde un peu bizarrement. Bon. Et en revenant à mon bureau, donc je vois que mon chef m'avait appelé. Et je le rappelle, il me dit, est-ce que tu peux venir? Et là, coup près qui tombe, j'apprends que j'étais licenciée. Licenciée. Alors, je revenais de vacances, j'ai eu... crise de rire devant, je m'en parlais toute ma vie face au chef. En plus, j'étais de bonne humeur et tout, donc j'en ai ri. J'ai bon. Il dit oui. Sans rentrer dans le détail de ce qui s'est passé, en fait, incompatibilité d'humeur, c'est ce qu'on m'a dit. Le fait aussi que je travaillais à côté, voilà, on m'a reproché d'avoir une activité à côté alors que légalement, j'avais le droit. Je l'ai bien pris. Je vais écouter. Ça va être une libération, en fait. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Mais il me fait, écoute, tu prends tes affaires et là, tu rentres chez toi. Tu seras payé à faire votre préavis de 2 mois chez toi. Tu percevras ton salaire et voilà. Donc, je ramasse mes affaires. Gros coup près qui tombe. Mais je suis toujours en mode cool parce que moi, je viens d'atterrir, j'étais en congé, quoi. Et ça se termine comme ça. Je vais voir mes collègues, donc... C'est après que j'ai su, parce que ses collègues, j'ai pu voir, ils le savaient. Et ça a été une épreuve de se dire, on ne l'a pas dit, et c'est un peu eux qui avaient un peu, peut-être été un peu mauvaise langue. Je ne sais pas, ce qui a été fait, je ne suis pas en train de, parce que je vous dis ça parce que ces mêmes personnes ont témoigné contre moi au prud'homme, puisque je suis partie jusqu'au prud'homme. Je ne me suis pas laissée faire, donc encore une épreuve, encore à gérer. Mais c'est pas grave, je me dis, c'est pas grave, on me reproche de travailler à mon compte. Bon, c'est pas grave. Il y a eu d'autres choses qu'on m'a reproché, je peux pas rentrer dans le détail de ce qu'il y a eu. Mais en gros, ça se termine au prud'homme. Et en 2015, on passe au prud'homme. Donc jusqu'en décembre 2014, je suis à la maison à payer, à rien faire. Et en janvier 2015, à la maison, chômeuse. Et j'essaie de développer mon activité tant que bien que mal. Et en avril, donc un an après mon burn-out, je gagne mes prud'hommes. Entre-temps, avant de gagner ces prud'hommes, j'ai continué dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai développé mon activité avec le Pôle emploi. J'ai pu expliquer mon projet. Donc, ils ont été très compréhensifs et on m'a accompagnée. On m'a laissé faire le maximum pour développer mon activité. Mais malheureusement, j'avais un certain salaire et le chômage, c'était pas évident. Et j'avais investi du matériel, des choses pour mon activité. Donc, ça a été très difficile et je me suis retrouvée à, malheureusement, à être en surendettement. Et donc ça a été une période assez difficile à gérer puisque bah voilà, j'ai eu les huissiers sur le dos. Imaginez, vous, vous êtes en train d'entreprendre. Donc d'un côté, voilà, faut vous acharner. Et de l'autre côté, bah, financièrement, c'était compliqué parce que bah, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas forcément fait de business plan. Il y a plein d'erreurs que j'ai pu faire. Et donc, il faut bien s'entourer. J'ai travaillé seule, même s'il y avait des copines entrepreneuses, mais dans le conseil en image, je ne suis pas forcément rapprochée de réseaux d'entrepreneurs. Donc, j'ai bossé de mon côté. Donc, j'ai fait plein d'erreurs avec le recul, mais ça m'a forgée. Donc, je me suis accrochée comme je pouvais. Je n'ai pas lâché. Et heureusement que j'ai gagné mes prud'hommes, puisque ça a pu me permettre de repartir à zéro et de lancer mon activité, payer mes dettes et avancer. Donc, ça a été génial. Donc, mon activité se lance enfin sereinement, sans ces problèmes-là. Donc, je me fais accompagner avec deux organismes pour faire un business plan, pour faire plein de choses. Donc, tout se passe bien. Je réaménage mon salon parce que je n'avais pas les moyens de prendre une location d'un local. Et je me dis, bah, c'est pas grave, tu vas le faire à la maison, c'était grand. Donc, je réaménage tout, je fais la peinture, je vais chez Ikea. Donc, vous savez, ça vous rebousse, vous êtes là dans la déco. Je refais toute cette pièce-là. Et j'annonce qu'enfin, j'ai un local que je vais pouvoir recevoir pour la photo au sein de mon domicile, ainsi que la partie make-up et conseil en images au sein de mon appartement. Et je me dis, waouh, c'est génial, je vais pouvoir enfin recevoir dans de bonnes conditions, même si ça se passait auparavant très bien avec les clients, il n'y avait aucun souci sur cette partie-là, mais c'était plus moi pour me soulager au niveau du matériel que je transportais, qu'il fallait monter, démonter, j'avais peur de perdre des choses, de casser des choses. Et là, je me dis, c'est plus simple, ça va être centralisé dans mon studio, à la maison, et je trouvais ça plus pratique pour moi. Et aussi, c'était la concrétisation de tout ce que j'avais pu mettre en place, malgré l'adversité, les épreuves perso, et aussi sur la partie professionnelle, où ça n'avait pas évident de se dire, waouh, des personnes avec qui j'ai travaillé m'ont dénigré et ont témoigné contre moi, et je les remercierai jamais assez. Je les remercie puisque, en fait, en me dénigrant comme ça, ils m'ont donné encore plus la niaque, plus la force. C'est triste qu'ils soient arrivés là. J'espère qu'ils se regardent dans une glace, ils arrivent à se regarder dans une glace et en se disant, mince, voilà ce que j'ai fait, mais bon, ça leur est propre, tant pis pour eux. Mais en tout cas, ils m'ont rendu service quelque part, et ça m'a encore plus boosté. Voilà, dans cette énergie que j'ai pu mettre dans mon activité. Donc, tout se passe bien, je suis heureuse, j'en parle sur mes réseaux sociaux, voilà, lancement bientôt. Mais malheureusement, une autre épreuve est arrivée. Et celle-ci, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts parce que même moi, je me dis waouh, avec le recul, ça a été quelque chose d'assez compliqué. Comme je vous l'ai dit, je suis née le 7 avril 1980, mais j'ai une deuxième date de naissance, le 3 mai 2017. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce fameux 3 mai 2017, je vous remets dans le contexte, donc je travaille en tant que photographe, conseiller en images et make-up artiste. C'est la grosse période pour moi des mariages. Donc, suite au licenciement que j'ai eu, j'ai pu bénéficier, donc j'ai demandé à bénéficier d'une formation dans la photo. Et donc, j'ai profité pour me former à la photo de mariage. Donc, depuis, sur la partie photographie, je me suis spécialisée dans l'événementiel mariage. Et donc, cette période-là, j'étais en plein dans les mariages enchaînés tous les week-ends, un mariage. Donc, j'ai bossé sur ces fameuses photos. Et toute la nuit, j'ai dû dormir 3-4 heures, mais je me suis quand même levée, motivée pour terminer les photos, pour ne pas avoir accumulé beaucoup de retouches sur plusieurs mariages. Et ensuite, en semaine, comme j'ai mon activité sur la partie conseil en images, je donne des cours dans mon ancienne école de conseil en images. Donc, énormément de travail. Donc, je ne vais pas me plaindre. J'étais ravie. Donc, tout se passait bien à ce moment-là. Et en plus, il y avait le lancement qui arrivait. Donc, je voulais que tout soit prêt. Et vu que j'avais fait une petite nuit blanche, j'ai dormi 3-4 heures. Donc, vous travaillez, vous ne vous rendez pas compte qu'il fallait manger. Donc, à 13 heures, je décide enfin d'aller déjeuner. Et je me pose, les photos sont en train de charger, nickel, je me prépare à manger. Je vois mon chat qui est pas très... qui miaule, qui tourne, donc je commence par elle, je lui donne à manger et voilà, je prépare à manger. Et d'un coup, j'entends un miaulement, je ne comprends pas ce qui se passe, elle n'a jamais miaulé comme ça. Et au moment en fait où je me retourne pour lui dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Je me rappelle lui avoir dit « mais qu'est-ce qui se passe, Bibiche ?» Voilà, ma petite taupe. Et en fait, d'un coup, je sens une grosse pression au niveau des oreilles. Et en fait, comme si j'étais aspirée. Donc, âme sensible, ça se tenir d'écouter si vous êtes sensible. Mais voilà, désolée pour ce que je veux dire. Et en fait, d'un coup, je sens que je suis aspirée et une grosse chaleur arrive. Mais vraiment, de la chaleur, je ne comprends pas. Et je vois que mon corps vole, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive, hein, toujours pas. Et d'un coup, en fait, je suis aspirée dans l'air et je vois que je tombe et je tape contre mon four. Et en fait, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. J'étais en train de cuisiner et mon voisin, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc il était toujours en cours après 5 ans, a eu un problème de gaz. Donc on ne sait pas s'il a voulu suicider ou c'est un accident. Donc il y a eu une déflagration au gaz dans l'appartement d'à côté de chez mon voisin. Et je me retrouve comme ça, en plein chez moi, tranquillement, en train de cuisiner, retrouvé par terre, mais sans rien sentir. Hein. Et ne plus entendre plus aucun son, juste avoir attendu ce souffle qui m'aspire, qui fait comme ça, c'est ce qui est arrivé, et une grosse chaleur, et mon corps qui vole, mais je ne sens pas l'impact. Parce que voilà, je ne sais pas, est-ce que c'est l'adrénaline, et je me retrouve par terre, et je ne comprends pas pourquoi. Et je n'entends plus rien, il y a de la fumée, il y a du feu. Et j'ai l'impression que je suis morte, hein. C'est parce que je ne sentais plus rien, donc je pensais que j'étais morte à ce moment-là, avec les souvenirs que j'ai. Mais ça, tout ça va très très vite. Hein. Et en fait, donc, je suis victime d'une explosion au gaz. Mon voisin, malheureusement, comme je vous l'ai dit, a eu un problème chez lui. Donc, ça a explosé. Et je vois toute ma maison, tout ce que j'ai construit. Après, c'est que du matériel, c'est rien. Et partir en fumée en 1/1000 de seconde. Moi, avec, j'ai failli mourir. Waouh, c'est qu'on se remémore ça, c'est pas évident. Mais bon, j'en rigole maintenant parce que je suis sain et sauf, malgré le souci que j'ai rencontré. Et en fait, je vois mon voisin en face de chez moi. Donc, les murs complètement explosés, la fumée. J'entends plus rien, j'entends juste au fond, dans mon oreille, quelque chose qui fait... Vous savez, quand il y a une explosion et il y a une déflagration. Donc, c'est ça que j'entends. Mais j'ai l'impression d'être décédée, puisque je ne sens plus rien. Et je vois malheureusement mon voisin qui est en train de brûler, mais qui est vivant. Et c'est horrible cette partie, désolée. Mais je voulais témoigner de ça, que vous puissiez vous rendre compte, en fait, malgré l'adversité, on peut s'en sortir, malgré des galères comme là, ce que j'ai vécu. Et voilà, après, tout va très vite. Je vois une personne, comme moi, j'habitais au rez-de-chaussée à cette époque-là, l'explosion a fait exploser la porte d'entrée du monsieur. Et je vois un monsieur qui rentre de l'extérieur, qui me regarde. Et moi, en fait, je suis abasourdie. Et ça va très, très vite. Hein. Très, très vite, même quelques secondes. Qui me dit de sortir. Et en fait, je me dis, mince, il me voit. Et j'ai l'impression de me dire, mais en fait, je ne suis pas morte. Parce que, et en fait, j'ai eu le réflexe de me dire, il faut éteindre le monsieur parce qu'il est en feu. Et en fait, c'est quand ce monsieur est rentré pour me dire, sortez. Je dis sur ses lèvres, en fait, sortez, sortez. Et il essaye d'éteindre le monsieur. Donc là, il y a doucement le son qui revient. Et là, je me rends compte, en fait, qu'il y a le feu à la maison, que tout est en... ça a explosé. Donc, avec l'explosion, il y a eu un effet domino. Donc, j'ai eu tout qui est... tout a bougé, en fait. Les murs, voilà. Parce que ce n'est pas des murs porteurs, c'était du placo. Il n'y a plus rien, en fait. Et tout était en train de brûler. Et là, d'un coup, il y a le son qui commence à revenir. Et là, l'odeur qui revient, il y a les sensations. Et là, je suis prise d'une crise d'hystérie. Et je sors, j'arrive à escalader la montagne de détritus de chez moi, en fait. Ma chambre est mélangée avec l'appartement du monsieur, avec ma cuisine. Il n'y a plus de... On ne se reconnaît plus dans cet espace-là, en fait. Et j'arrive à sortir dehors. Et le monsieur a fait sortir mon voisin et le pauvre. Les gens essayaient d'éteindre le feu, puisqu'il était en train de brûler. Et moi, en mode hystérique, voilà. En 1/1000 de seconde, j'ai perdu 10 ans de ma vie. C'est que du matériel, hein. Quand vous m'écoutez là comme ça, c'est que du matériel, c'est rien. Mais c'est vrai qu'avec le recul, voilà, y a tout ça qui vient. Je dis, mince, je suis vivante. Le monsieur, malheureusement, je suis en train de l'insulter dehors, parce que je suis en train de l'insulter en lui disant, il a essayé de m'assassiner. Et je vous épargne les noms d'oiseaux que j'avais sortis avec le choc. Je vois les gens pleurer dehors. Moi, je suis en mode vraiment hystérique. Hein. Waouh! Et je ne sais pas où est mon chat. Donc, je suis en train de chercher mon chat partout. Je me dis, elle a fini en crêpe ou brûlée. Hein. Et désolée pour les détails un peu. Voilà. Et voilà. En fait, je me rends compte que mon appartement et celui de mes 3 autres voisins ont été soufflés dans une explosion au gaz. Et je suis dehors en mode hystérique, en train de prier. Et je suis croyante, donc en train de remercier Dieu. Et les gens me voient comme ça, en mode hystérique dehors, à moitié à poil, parce qu'avec l'explosion, c'est un peu cramé. Voilà, donc j'en rigole, mais voilà, c'est pas marrant, mais c'est... Voilà, pour vous remettre dans le contexte de cette situation-là. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je me dis, voilà, bah, avec toutes ces épreuves, on peut se relever, on peut s'en sortir. Et fort heureusement, en fait, dans mon cas, bah, cette explosion, effectivement, bah, je l'ai... Bah, ça a été un accident. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis repartie à zéro. Mais tout reconstruit, c'est-à-dire ma vie privée et ma vie professionnelle. Tout ce que j'avais pu mettre en place, bah, voilà, fallait tout rebelote, repartir et reconstruire. Et bah, ça me donnait encore plus... s'acharner en fait à ne pas lâcher et repartir à zéro. Après, je ne veux pas vous dire que ça a été facile. Presque cinq ans et demi après, je suis toujours en procès avec la personne. J'attends que les assurances me remboursent. Donc, j'ai pu récupérer, pas une grosse partie de mon matériel, mais une grosse partie a été détruite. Voilà, j'étais SDF, puisque je me suis retrouvée sans rien, pas de vêtements, plus rien. Mais quand je vous dis, je comprends toutes ces personnes qui, du jour au lendemain, les pauvres, perdent tout. Et moi, ça a été d'un coup. Ça a été, waouh, en un millième de seconde, boum, ça s'est évaporé. Et de repartir à zéro. Donc, il m'a fallu du temps pour me reconstruire. Déjà, essayer juste déjà de voir, moi, si ça va bien. Dans cette explosion, j'ai été blessée au bassin. Donc, j'ai le bassin qui a été... qui a bougé, mais sur le coup, je n'ai rien senti. Donc, ça s'est déclaré que plus tard, 6 mois après. Mais sur le coup, voilà, j'étais tellement dans ce qui m'était arrivé, donc je ne sentais plus rien, en fait. Et il fallait du temps. Donc, essayer de juste se retrouver un toit sur sa tête. Donc, je me suis retrouvée, grâce à mon assurance, heureusement. Même si mes parents m'ont proposé d'être hébergée, mais je ne voulais pas leur faire subir encore cette épreuve. Donc, j'ai préféré me retrouver seule. Mon chat est sain et sauf. N'a rien eu. Elle a juste eu un choc. Et donc on s'est retrouvés toutes les deux, les pompiers l'ont retrouvée dans les gravats, elle s'était cachée dans la salle de bain. Donc en fait elle avait entendu l'explosion, mais moi le temps que ça vienne, elle a réussi, elle au moment où je l'entends miauler bizarrement, elle a réussi à se sauver, se cacher dans la salle de bain, ils l'ont retrouvée en fait sous les gravats dans la baignoire. Donc l'instinct animal, donc, quelque part je me dis est-ce que c'est elle en miaulant comme ça qui m'a alertée en fait. Et je me suis retrouvée à l'hôtel pendant 10 jours, sans vêtements, sans rien, donc ça a été... Donc, mes proches se sont mobilisés pour essayer de me faire une petite quête de vêtements, des choses simples. J'avais pas mon portable, c'est des personnes dehors, je les remercierai jamais assez, qui m'ont aidée en me donnant un téléphone pour appeler mes parents. Heureusement que mes parents, je me rappelais de leur numéro de téléphone et pour pouvoir les appeler. Et voilà, et c'est après toute cette solidarité qui s'est mise en place, que ce soit mes proches, mes amis, les personnes dans le quartier dans lequel je vivais qui ont essayé de m'aider un maximum. Donc ça a été très dur de remonter la pente. Mais voilà, ça a été... voilà, vous repartez à zéro avec plus rien. Heureusement que j'ai pu sauver mon matos sur la partie ordinateur. J'ai réussi à sauver ça où il y avait les données de mes clients. Je pensais à ça, à mes cours et tout ça. J'ai continué à bosser en freelance sur la partie où je donnais des cours. J'ai prévenu l'école à laquelle je travaillais. Et, parce que si je m'arrêtais complètement, je sombrais dans la folie parce que je venais de tout perdre. Quoi. Je me dis, ne m'enlevez pas le travail. Donc j'ai continué à donner mes cours. Et heureusement qu'ils ont fait une quête de vêtements et je les remercie. Et une enveloppe pour m'aider à avoir un peu de sous, parce que voilà, c'était pas évident, parce qu'il y avait tout à racheter, je savais plus où donner de la tête, donc ça m'a aidé. Et voilà, et au fur et à mesure, donc j'ai pu être relogée, ça a été très difficile, hein, parce que sachant que le bailleur à l'époque, une des personnes qui était venue constater qu'il y avait cet accident, m'a dit texto devant tout le monde, vous n'êtes pas prioritaire pour être relogée. Et effectivement, en relisant le bail, je n'étais pas prioritaire pour être relogée. Malgré que je venais tout perdre, mais sur le coup, quand la personne vous dit ça, c'est terrible parce que vous n'avez plus rien et en plus, on vous dit débrouille-toi, meuf. Mais voilà, j'ai pu me reconstruire, j'ai pu être relogée, même si j'étais relogée dans un appartement qui était vide, donc ça a été les dons de la famille qui m'ont donné un matelas par-ci, des amis qui m'ont. Voilà, un petit micro-ondes par-là, voilà, mon assurance a pu débloquer une petite somme pour pouvoir acheter juste le nécessaire. Je ne suis pas partie très loin avec tout ça, mais voilà. Et au fur et à mesure, je n'ai pas lâché l'affaire. Et j'ai pu enfin être relogée et me reconstruire, récupérer ce que je pouvais récupérer. Et une grosse partie de chez moi, ça a été brûlé ou noyé. Là, les pompiers ont fait leur job, donc je n'en veux pas. Mais voilà, c'est vrai que ça fout un peu les boules. Deuxièmement, ce que j'aurais pu sauver, ça a été noyé et c'était trop... Voilà, c'est que du matériel, hein. Je reviens à ça, c'est que du matériel. Et voilà, et 5 ans après, j'ai réussi, je n'ai pas lâché. Ça a été très difficile, par contre, de remonter la pente. Je suis encore, comme je vous le dis, en train d'attendre les indemnités. Hein, c'est 5 ans après. C'est très long, la justice. Et j'ai pu me reconstruire en trouvant un job alimentaire, en continuant mes activités. J'ai pu honorer tous les contrats, puisque j'étais en pleine période de mariage. Donc, des amis photographes, merci à eux, m'ont prêté du matériel. Et j'ai pu continuer à faire comme si de rien n'était et honorer mes contrats auprès de mes clients. Voilà, c'est avec le recul, voilà, je dis, waouh, quand on repense à tout ça, par où j'ai commencé et je me suis crachée plusieurs fois. Et là, je me dis, bon, voilà, je suis repartie à zéro. Et là, aujourd'hui, en 2022, tout va bien. Même s'il y a eu la période Covid, j'avais heureusement à cette période-là un job alimentaire, donc j'ai pu, assurer mes arrières. Même si après, bon, sur la partie Covid, concert en images, photo, make-up, tout était fermé. Donc, il y a eu cet impact-là. Donc, l'épreuve du Covid a aussi été bénéfique puisque j'ai pu me recentrer sur moi-même, retravailler mon activité, refaire plein de... de nouvelles propositions de services. Et j'ai rencontré aussi de très, très belles personnes durant tout mon parcours qui m'ont toujours soutenue, qui continuent à être là et à me soutenir. Il y a des personnes, malheureusement, qui étaient là dans ma vie, mais qui ne le sont plus, parce qu'à un moment, des personnes toxiques ou des personnes qui me tiraient plus vers le bas qu'autre chose, ou qui, voilà, on n'était plus sur la même phase, on n'avançait pas de la même manière, ça s'est arrêté là. Hein. Donc, le Covid aussi m'a aidé à faire ce tri-là. Et voilà, pour vous dire un petit peu où j'en suis. Donc, je continue toujours dans le conseil en images, la photographie et le maquillage. Sur la partie photo, je développais une activité de photo d'identité. Photo pour les enfants, pour le passeport, pour la carte d'identité, pour le permis de conduire. Vous avez aussi les photos ANTS. Donc, je fais ma propre pub. Et là, pour l'année 2022, un projet qui me tenait toujours à cœur, mais malgré toutes les épreuves que j'ai pas pu le mettre en place en temps et en heure. Et enfin, il s'est concrétisé au mois de mai. C'était de monter mon association qui est Investir Solidaire pour venir en aide à des personnes qui sont dans le besoin, surtout sur la partie insertion professionnelle, réinsertion professionnelle. Donc accompagner des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'habiller, se valoriser. Et donner moi qui ai des outils en tant que conseillère en image et make-up artiste, de leur donner les outils pour pouvoir décrocher leur futur job ou même se sentir juste bien dans leur peau. Et le principe, c'est de pouvoir récupérer des vêtements. Ça se fait déjà avec plein d'associations qui le font. Je n'ai pas inventé l'eau chaude. Mais c'était quelque chose qui me trentait déjà à l'époque où je m'étais formée en 2011 en tant que conseillère en image et de pouvoir donner la possibilité à des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des services de conseillère en image. L'opportunité de se sentir bien dans leur peau et de se valoriser, et sachant que la première impression dans le milieu du travail, c'est ce qu'on va retenir de vous. Donc c'est de leur donner déjà ces clés-là pour pouvoir décrocher leur job et sortir de la galère. Moi, je suis passée par là, mais autrement, parce que j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui m'accompagne, il n'y a pas de souci, j'ai pu me former et tout ça. Mais le fait d'avoir connu vraiment... la galère avec l'explosion de cet appartement-là dans lequel je vivais, et de repartir à zéro et d'avoir plus rien. Je me dis, waouh, si je pouvais rendre... J'ai vu l'élan de solidarité qui s'était mis en place et je me dis, il faut rendre ce qu'on a pu me donner déjà. Même déjà avant cet accident, pouvoir aider les autres. Mais cet accident encore un peu plus accentué l'envie de pouvoir aider et tendre la main à des personnes aussi qui, pareil, comme moi, ont eu, comme tout le monde, des hauts, des bas dans leur vie. C'est leur donner ce petit plus qui va les rebooster et reprendre confiance en eux et avancer dans leur vie sereinement et décrocher un job. Voilà. Donc, je suis fière de mon association qui s'appelle Zafira Vestiaire Solidaire. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. On est en train de mettre en place plusieurs choses. Le but, c'est pas de travailler directement avec les particuliers. C'est de travailler avec, par exemple, le Pôle emploi de ma ville ou les missions locales, les associations d'aide à l'insertion qui me feraient venir m'envoyer des bénéficiaires et avec des équipes de bénévoles dans mon milieu de conseillère en image et de maquilleur, venir intervenir pour aider les personnes à se valoriser. Pour la partie vêtements, ce serait de faire des collectes de vêtements auprès de grosses entreprises ou petites entreprises ou de particuliers. Là, pour le moment, je n'ai pas encore de local pour stocker tout ça, donc je suis en train de faire le nécessaire auprès de ma ville pour trouver un local pour qu'on puisse stocker ça et recevoir dans de bonnes conditions les bénéficiaires. Voilà, pour la partie de mon agence Mariska, donc je continue bien sûr à travailler dans ce milieu-là. Et ça se développe doucement, mais sûrement. Même si j'ai repris à zéro, même s'il me manque encore du matériel suite à cette explosion. Mais bon, j'ai réussi à quand même travailler comme il faut. Donc, de ce côté-là, ça va. Donc, ça va aller. C'est juste sur la partie photo, c'est des fois compliqué dans certaines choses de rendu que j'aimerais avoir. Mais bon, le travail est fait. Donc. Et les clients sont satisfaits, donc c'est le plus important. Mais voilà, donc je voulais vous raconter tout ce cheminement pour vous dire, bah voilà, malgré les épreuves, on peut s'en sortir. C'est pas facile, hein. Il y a des jours où j'ai pleuré, il y a des jours où je me suis enfermée chez moi, je ne sortais plus. Parce que je me disais, c'est pas possible, j'ai tellement enchaîné d'événements, sans vous parler de la vie perso, parce qu'il y avait la vie perso à côté, qui était aussi parfois très difficile, que ce soit dans la partie amoureuse, que ce soit dans la partie famille, où il y a eu des épreuves aussi... au sein de mes proches, hein, où il y a eu de la maladie et tout ça. Donc c'était tout ça, ce trop-plein, et boum, voilà, c'est bien le mot, ce qui m'est arrivé, le fameux boum, où il y a eu, voilà, cette explosion m'a permis de renaître une seconde fois, et de me dire, voilà, j'ai cette chance-là de repartir à zéro, et on peut le faire malgré, voilà, quand vous avez des moments difficiles. Voilà, le plus important, c'est de dire, voilà, ouais, je répète plusieurs fois, voilà. Mais de se dire, voilà, je suis en vie, je suis en bonne santé. Même si j'ai été blessée, j'ai réussi à me soigner. Hein, même si de temps en temps, j'ai encore des petites séquelles, mais ça va, c'est pas visible. C'est plus le bas du dos, c'est pas évident. Et se dire, voilà, j'ai survécu à ça. Donc je peux survivre à d'autres choses plus graves. Plus grave, je ne me le souhaite pas, hein. C'est bon, j'ai assez eu d'épreuves. Mais je peux, voilà, dans mon activité, bah voilà, j'ai connu des choses très très basses, donc on peut repartir à zéro. Voilà, c'est mon message, c'est rester hyper optimiste et se dire, bah, malgré l'adversité, bah voilà, on peut continuer, on ne lâche pas. Là, actuellement, bah, je vis de mon activité, même s'il y a des fois, ça va être difficile. Après le Covid, ça n'a pas été évident. Le job alimentaire que j'avais à côté, ça s'est terminé. Et la vie continue. Voilà, et on reste positif. Donc, avec mon actualité avec l'association et aussi ce podcast voilà, qui pourrait être un témoignage de tous ces parcours de femmes. Il y aura aussi des hommes, bien sûr. Là, c'est vrai que c'était dédié beaucoup aux femmes. Il y aura des hors-séries avec des hommes qui aimeraient pouvoir partager aussi leur expérience de vie. Voilà, donc je suis ravie de vous avoir sur ce podcast. J'espère qu'il aura une longue vie. J'espère pas avoir été trop longue, mais en tout cas, voilà, il fallait vous raconter mon parcours. J'ai essayé de vraiment condenser un maximum, peut-être dans un prochain projet de livre, on ne sait jamais, de raconter un peu tout ce parcours. Ce serait aussi un exutoire pour moi, même si ça va mieux. Mais voilà, il y a eu des moments, c'était difficile pour... le sommeil, ou voilà, je supporte pas la fumée, le gaz, c'est pas possible. Voilà, il y a des petites choses qui reviennent, mais bon, ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Après, je sais que vous vous dites, voilà, putain, c'est bateau ce qu'elle nous dit là, mais voilà, moi j'y crois et je reste le plus positif et voilà, je savoure chaque instant, et dans cette épreuve-là, le fait de ne plus avoir trop de sommeil, eh ben ça me permet aussi de bosser un peu plus sur mon activité, donc au contraire, ça a été bénéfique. Après, voilà, le mot de la fin, parce que j'ai beaucoup parlé. J'espère que, voilà, n'hésitez pas à me laisser des questions, vous voulez échanger. Voilà, je suis ouverte à la conversation. Je n'ai pas envie qu'on me prenne en pitié ou un truc comme ça. Ce n'était pas le but hein, de pouvoir raconter ça, mais vous dire, voilà, malgré les épreuves, tout le monde a des épreuves, et plus ou moins graves, hein, ça dépend des gens. Mais en tout cas, moi, voilà, mon épreuve, mon histoire, c'est ça, mon histoire entrepreneuriale. Ce que je vis, je continue toujours, je ne lâcherai pas tant que j'ai un souffle de vie, je continuerai et je m'épanouirai, je bifurquerai s'il faut changer de voilà, mais c'est moi, c'est cette histoire-là et j'en suis fière, voilà. Donc merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour les prochains épisodes de toutes ces personnes formidables que je vais pouvoir interviewer. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à liker. Si cela n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre page Instagram Talk with Mariska. Vous pouvez me suivre et apprendre à me connaître sur mon compte Instagram Fariza Swila. Tous les liens sont en description. À très vite pour un nouvel épisode des parcours d'entrepreneuses inspirantes sur Talk with Mariska.